Good Morning Business, Business Today.
Fabriquer du sucre, c'est très, très énergivore. Il faut du gaz pour faire marcher les fours, transformer des betteraves en sucre, du maïs en amidon. Tereos investit 800 millions d'euros d'ici 2033 pour décarboner ses usines. Olivier Leduc, bonjour. Vous êtes directeur général du groupe. Alors, on commence par quoi? Est-ce que d'abord, on regarde les fours eux-mêmes et on se dit, c'est ça qu'il faut changer?
Alors, cette trajectoire de décarbonation, ça consiste déjà à prendre un engagement net zéro émission de carbone en 2050 et qui passe par une étape dans 10 ans, 2032, en réduisant nos émissions de CO2 de 65% sur nos sites industriels européens, ce qui représente 50% de baisse de CO2 au niveau mondial. Ça va se faire en deux étapes. La première étape, c'est une étape de sobriété, c'est-à-dire qu'on va réduire nos consommations d'énergie. Donc nous, notre énergie, c'est une énergie fossile, c'est le gaz. Donc on va réduire nos consommations de gaz sur les prochaines années. Et ensuite, dans une deuxième étape, on va procéder à l'électrification de nos processus industriels. Donc on va remplacer progressivement ce gaz par de l'électricité. Pour vous donner deux chiffres qui sont assez marquants, je pense, on va diviser par 4 nos consommations de gaz et multiplier par 2 nos consommations d'électricité en Europe sur un horizon de 10 ans.
Donc je reviens à mon histoire de four. Il y a un sujet là-dessus. Vous allez changer les fours. Est-ce qu'il faut changer tout l'outil industriel? Est-ce qu'on peut rétrofiter comme dans l'industrie automobile?
Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va rétrofiter. C'est-à-dire que c'est une multitude de projets. On va avoir 80 projets sur différents équipements en utilisant les meilleures techniques disponibles, avec des techniques comme de la récupération de chaleur fatale, comme de l'optimisation des schémas thermiques. Voilà, c'est des choses comme ça. Ce sera 78 projets sur 16 usines.
Donc 800 millions, c'est ce que ça va coûter en tout sur l'ensemble de ces projets. Vous estimez que vous allez récupérer combien? Parce que tout ça, c'est de l'investissement. Mais non, parce que, évidemment, vous allez faire de la sobriété, moins consommer. À un moment donné, il y a un ROI dans tout ça,
ouais,
non?
Tout à fait. Alors, on est loin de nos standards de rentabilité habituels. Donc si on le fait, parce que c'est une obligation face au changement climatique. Par contre, on pense être aidé par un certain nombre de subventions. Notre plan a été très salué par l'ADEME. Donc on compte avoir entre 20%, 25% de subventions entre l'ADEME et les certificats d'économie d'énergie. Donc qui devrait réduire l'enveloppe de 800 millions. Et puis, ce plan, il sert aussi les demandes des clients.
Ouais.
Donc on va le monétiser. On a commencé des discussions avec nos clients parce qu'un sucre décarboné a plus de valeur qu'un sucre, une commodité
ne respectant pas les contrats environnementaux.
Il devra être plus cher. Il devra récompenser, il devra avoir un premium, par rapport au tout venant.
Mais c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre plan décarbonation, je vais le retrouver en rayon, où je vais dire, je prends ce sucre-là, il est décarboné par rapport à celui d'à côté, j'accepte de le payer plus cher. Ça finit au consommateur.
On verra ce que nos clients industriels décideront de faire en termes de passage de cette prime aux clients.
Pour arriver à ce plan de 800 millions, vous avez regardé tout votre outil industriel. J'imagine qu'il y a des inégalités entre les outils de production tels qu'ils sont. Il n'y a pas des endroits où vous vous dites « Ah, ça vaut carrément pas le coût ?»
On l'a fait.
Ouais.
On a fermé 3 usines l'année dernière. Donc je pense qu'on a fait le travail en termes d'empreinte industrielle.
Pour des sujets de décarbonation?
Non, mais c'est vrai que le coût de la décarbonation est aussi important, est aussi impactant. Donc non, on a 16 sites industriels en Europe. On décarbonera la totalité de ces 16 sites.
À quel point c'est important? Vous l'avez dit, c'est une obligation presque morale aujourd'hui d'avoir un plan de décarbonation légal. À quel point c'est partagé au sein de votre entreprise? C'est-à-dire que quand vous présentez ce plan à vos salariés, ils disent « Ok, banco, on y va » ou ils disent « Attendez, il y a une partie de greenwashing, je ne comprends pas. »
Alors, ce n'est pas du greenwashing, hein, l'engagement
est
ferme.
Mais il faut le présenter aux salariés, le vendre et les embarquer, sinon ça ne fonctionne pas.
D'abord, on est une coopérative agricole. Donc, le changement climatique pour les agriculteurs, c'est très important. Parce que les conséquences, ils les voient dans leurs exploitations à tout moment, et de plus en plus. Donc, on a un support extrêmement fort, ça c'était important, de la part de nos coopérateurs, pour engager ce budget. Et ensuite, c'est demandé par nos collaborateurs. Moi, à chaque fois que je recrute un nouveau collaborateur aujourd'hui, le sujet de la durabilité, pas seulement de la
décarbonation... Il vous pose la question.
Bien sûr, de la durabilité est sur la table.
Il veut le plan de décarbonation en entretien. Non, mais j'exagère, mais il y a un petit côté comme ça.
C'est-à-dire qu'en étant mieux disant, en étant le premier sucrier amidonnier d'ailleurs, en prenant cet engagement auprès des SBTI sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a parlé des usines, mais ça couvre aussi l'amont agricole, et la réduction des gaz à effet de serre sur l'utilisation des sols, par l'utilisation des sols, sont des points extrêmement importants pour nos collaborateurs.
Vous nous disiez, on va passer du gaz à l'électrique. On entend beaucoup de PME, de TI se plaindre aujourd'hui du niveau de la facture d'électricité qu'ils ont négocié il y a 18 mois très cher. Est-ce que du coup, là, vous avez des négociations de contrats à court terme, à long terme ?
C'est un point important, effectivement, compte tenu du fait qu'on va doubler notre consommation d'électricité. Avoir un prix d'électricité stable et compétitif, c'est quelque chose d'important. Donc, on va être extrêmement vigilant aux discussions qui sont encore en cours, hein, je crois, sur l'évolution de la réglementation du prix de l'électricité nucléaire. On a la chance en France, il n'y a plus l'ARENH, mais on a la chance en France d'avoir une électricité verte, d'avoir une électricité décarbonée. Ça, c'est un avantage compétitif par rapport à nos concurrents qui sont dans d'autres pays européens. Encore faut-il avoir une visibilité sur ce prix de l'électricité qu'on n'a plus vraiment compte tenu de la disparition de l'ARENH.
Mais c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a un niveau auquel le plan ne fonctionne plus, un niveau du prix de l'électricité où c'est trop cher pour que ça fonctionne?
Non, je dirais pas ça. Effectivement, ça pourra avoir un impact sur nos rentabilités. Après, on voit aussi ça comme une diversification de notre mix énergétique. C'est-à-dire aujourd'hui, on est très exposé au gaz, avec la volatilité du gaz. Demain, on réduit notre exposition au gaz, on ajoute une exposition électricité. Donc, c'est une diversification de notre risque.
Il nous reste 50 secondes sur la question agricole. Vous ressentez justement dans vos coopératives, la tension est redescendue. Comment vous sentez l'ambiance ?
Oui, je pense qu'on a reçu un certain nombre de réponses aux questions qu'on avait posées. Chez Tereos, on s'était adressé au Premier ministre. Hein, Gérard Clé, le président de la coopérative, et moi-même avions écrit une lettre au Premier ministre pour proposer un certain nombre de thèmes de réflexion. Je pense que la problématique du changement climatique, elle est très importante. Je pense qu'on a des coopérateurs qui sont très engagés sur la transition vers une agriculture bas carbone, sur l'utilisation des sols avec des techniques comme la réduction des apports azotés, comme l'augmentation des couverts, par exemple, en interculture. Donc, on a une écoute très forte. Et d'ailleurs, on a pris une initiative qu'on a annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va financer 1000 bilans carbone à nos coopérateurs pour justement faire ces diagnostics qui vont permettre cette transition vers une agriculture bas carbone.
Merci beaucoup Olivier Leduc d'avoir été avec nous ce matin, directeur général du groupe Tereos. Vous nous disiez à quel point vous alliez avoir besoin d'électricité. Eh bien, ça tombe bien. Figurez-vous que Flamanville va redémarrer cette semaine dans les jours qui viennent. On va vous raconter 20 ans d'errement. Quand même, ça a été compliqué sur Flamanville et c'est pas fini. Puis on vous racontera qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire va au COMEX d'EDF justement pour aller regarder la question des coûts et des délais. À tout de suite.